Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Une nouvelle émission Mets de résistance sur Radio Galère 88.4. Nous allons maintenant parler ce soir d'un festival de cinéma qui n'est pas très connu. Ce n'est pas le festival de Cannes ni celui de Hollywood. C'est un petit festival d'une petite ville qui s'appelle Châlons-en-Champagne, située dans la Marne. Pas très loin de Paris, à 1h30 de Paris, une ville qui est très proche d'autres villes comme Nancy, que de la Lorraine par exemple, mais aussi vraiment très proche de Verdun, et qui est marquée comme toutes les villes de la région par la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18. Il faut savoir qu'une grosse partie du tourisme qui se fait l'été dans cette région et se fait autour justement de la guerre 14-18 et que c'est un parcours à faire au moins une fois dans sa vie que d'aller à Verdun ou d'aller voir ces lieux où s'est déroulée la guerre des tranchées. Vous y rencontrerez des référents, des guides touristiques qui vous expliqueront ce qui s'est passé. Je pense que c'est très formateur de savoir exactement ce que c'était que la guerre 14-18. Et donc c'est justement pour cette raison-là, pour cette proximité avec les tranchées, que la ville de Châlons-en-Champagne accueille chaque année un festival qui s'appelle War on Screen. Alors, ce festival se déroule dans un lieu qui est situé en plein centre-ville, qui s'appelle La Comète. La Comète, c'est à la fois une scène nationale avec une salle de théâtre, mais aussi un cinéma. Donc pendant les 6 à 7 jours que dure le festival, tous les lieux de la Comète, que ce soit le théâtre ou le cinéma, voire d'autres lieux, comme par exemple la bibliothèque Georges Pompidou ou le lycée Bayenne, sont des lieux qui sont investis par le festival où on diffuse des films. Il y a des films qui sont très connus, des films qui sont beaucoup moins connus, des films de fiction, des films documentaires, des films anciens, des mythes fondateurs, on va dire, du cinéma actuel, mais également des films d'aujourd'hui qui sont récents. Alors bien entendu, on focalise beaucoup sur les films récents et il y a une remise de prix sur les longs métrages, mais aussi sur les courts métrages. Il y a aussi une compétition court métrage. Donc pendant cette semaine-là, les gens qui viennent à Châlons en Champagne n'arrêtent pas. Ils n'ont même pas 2 minutes à eux entre chaque film. C'est vraiment une véritable effervescence. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont présents, qui se déplacent. S'ils ne peuvent pas le faire, ce sont leurs comédiens ou d'autres représentants du film qui viennent en parler avec le public. Donc il y a bien entendu des masterclass qui sont organisées cette année. Il y a eu en masterclass, nous avons eu Bertrand Tavernier, dont certains films étaient diffusés. Et puis nous avons eu d'autres réalisateurs qui sont venus faire des masterclass, des réalisateurs connus hein, pour beaucoup, avec lesquels il a pu y avoir des discussions très intéressantes parce que un film, c'est un véritable trésor qui se regarde par toutes les dimensions et c'est très intéressant, c'est vraiment formateur, c'est pour ça que les organisateurs ont appelé ça les masterclass. C'est très important de pouvoir discuter avec les réalisateurs et pouvoir poser des questions sur le film. Un film peut s'interpréter de différentes manières, c'est bien de savoir ce que le réalisateur avait dans la tête quand il a tourné le film. Donc, je vais parler un petit peu des films qui ont été diffusés. Et si je parle de ce festival, c'est parce qu'il n'est pas très connu. C'est vrai que nous, à Marseille, dans le sud de la France, ou ailleurs, ou en Bretagne, par exemple, certains n'en ont jamais entendu parler, à moins de faire partie du monde du cinéma. Et Dieu sait s'il y en a à Marseille, par exemple. Mais je voulais en parler parce que c'est pas souvent qu'il y a des festivals. On pense souvent aux festivals qui sont très médiatisés, comme le Festival de Cannes, mais il y en a plein d'autres en France. Par exemple, il y a, l'Institut des Frères Lumière à Lyon, où est né le cinéma français. Eh bien, cet institut-là est un institut qui organise régulièrement, bien entendu, des festivals avec des gens connus du cinéma ou moins connus qui viennent, mais pour discuter aussi avec les gens, pour recevoir des prix. Ou pour présider, par exemple, une année, il y avait eu Claudia Cardinal. Et War on Screen, à mon avis, fait partie des meilleurs festivals français. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande qualité dans l'organisation, il y a une grande qualité dans le choix des films. On cherche avant tout à faire connaître des jeunes talents. Et c'est très intéressant parce que les gens ont la chance de voir les films avant que les films sortent officiellement. Et puis, il y a une sorte de coopération qui se crée parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui habitent la région, qui viennent participer au festival. Donc, ils sont partie prenante du festival, c'est coopératif. Et tout le monde discute avec tout le monde, chacun vote, les gens ont envie de discuter entre eux. En bas, il y a une grande salle avec un bar où les gens peuvent discuter entre eux des films qu'ils ont vus, même en dehors des masterclass. Il y a aussi ces fameuses masterclass avec les réalisateurs ou des personnes qui ont participé au film. Souvent, ça dure 2 heures après le film. Quand les gens apprécient, posent beaucoup de questions, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est toujours au moins 1 heure. Il y a une cantine, tout est fait pour que les gens, pour qu'il y ait un petit village du festival où les gens se sentent chez eux. Donc c'est très intéressant et en plus tout ça, c'est autour du cinéma. Donc c'est dire. Alors c'était pour dire que je voulais en parler et je vais parler des quelques films que nous avons qui ont été diffusés. Par exemple, on va commencer par parler peut-être du film de Bertrand Tavernier, qui avec donc Bertrand Tavernier était présent lors de ce film. Il était présent d'ailleurs pendant pratiquement tout le festival, et il a commenté de nombreux films. Donc ça, c'était vraiment intéressant, parce que il y a beaucoup de gens, Bertrand Tavernier est quelqu'un qui est assez connu, et c'était intéressant de pouvoir discuter avec lui. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'auraient jamais espéré pouvoir parler avec Bertrand Tavernier en personne. Et on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait sur son film. Donc le film de Bertrand Tavernier qui a été diffusé, c'est un film qui parle de la guerre de 14-18, qui est très intéressant parce que c'est un film de fiction, c'est un film d'auteur et aussi un film d'acteur. Pourquoi un film d'acteur ? Parce que dedans il y a des acteurs connus, il y a Sabine Azéma par exemple, et ce film-là est une pure fiction parce que dedans il y a une petite histoire d'amour. Et puis il y a des rapports d'amitié qui se nouent, donc c'est un petit peu comme un roman, quoi. C'est pas du tout un documentaire. Mais en même temps, la manière dont le film a été tourné, il a été tourné dans la région de Verdun, montre très bien la réalité de la guerre 14-18. Comment ça se passait, que faisaient les militaires, qui tournait autour des militaires. Comment se passait le commandement, comment se déroulaient les batailles. Alors, bien entendu, ce film-là ne montre pas du tout, les combats. D'autres films sur la guerre 14-18, pendant ce festival, ont montré les combats, mais pas celui-ci. Celui-ci, c'est un film qui a... montré ce qui s'est passé juste après la guerre. C'est-à-dire, on était quand même plus ou moins dans la guerre parce que il y avait encore des alertes, mais on était quand même très proche de la fin. Et il montre une réalité dans l'histoire de France qui est assez critiquable, qui nous fait poser des réflexions, qui porte à réflexion sur certaines, sur la nature de la République française, parce que la République française s'est construite et se définit en partie par les décisions qui ont été prises par les différents hommes politiques qui se sont succédés depuis sa création en 1789. Et il faut, enfin, c'est très important, enfin, depuis sa création, suite, pardon, à la Révolution de 1789, et très exactement, la République française s'est créée en 1792, après qu'on ait mis fin aux attaques des Prussiens, pas très loin de Châlons-en-Champagne, à Valmy. La France gagne contre les Prussiens, et dès lors, la République française est mise en place. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le film de Bertrand Tavernier montre ce qui s'est passé juste après, c'est-à-dire qu'il y avait des anciens militaires, des militaires qui s'étaient fait tuer pendant les combats dans les tranchées. Ils étaient très, 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 très nombreux. Et beaucoup allaient mourir sans avoir vraiment de sépulture et surtout sans vraiment qui est de retour par rapport aux familles. Or, beaucoup de familles sont remontées dans la région pour aller récupérer le corps du disparu, un frère, un époux, un cousin, un ami, un fiancé pour certains, pour certaines. Ça, c'est un phénomène dont souvent on ne parle pas. Il y a tous ces jeunes qui sont morts pendant la guerre de 14-18, et puis après, il y a toutes ces familles qui se sont déplacées pour retrouver le corps du disparu. Et au début, l'état-major avait donné l'ordre de ne pas laisser les familles récupérer les corps. Et Bertrand Tavernier montre dans son film, qui d'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore cité le titre, s'appelle « La vie et rien d'autre », que certains ont désobéi, et c'est le cas de Philippe Noiret, qui campe un personnage assez gradé dans l'armée, et ce personnage-là désobéit, c'est-à-dire qu'il laisse les familles récupérer les corps, et même, il va même encore plus loin que ça, il établit en mémoire des disparus une liste des disparus avec leur nom, leur prénom, leur lieu de provenance, quand c'était possible de le retrouver. Et donc ça c'est très intéressant, donc il crée des listes, et il laisse les gens venir récupérer les corps des membres de leur famille qui ont disparu. Et il y a beaucoup d'humanité dans ce film, les militaires qui sont sous ses ordres rendent des objets privés qui reviennent aux familles en question. Donc le film montre qu'à l'époque, tout le monde n'était pas d'accord et que les pouvoirs publics avaient essayé plus ou moins d'étouffer un petit peu l'horreur de ce qui s'était passé dans les tranchées pour ne pas que l'on puisse comptabiliser le nombre exact de morts. Donc ce que faisait Philippe Noiret dans le film ne les arrangeait pas du tout finalement, puisque ça permettait de compter le nombre de gens qui étaient morts, puisqu'on faisait des listes. Et puis, il y a plein de gens qui se déplaçaient sur le terrain, qui connaissaient rien de la guerre de 14-18, enfin du moins du cœur des combats, et qui revenaient pour raconter ce qui s'était passé. Donc voilà ce que raconte le film, sur fond d'histoire plus ou moins amoureuse, avec Sabine Azéma qui vient récupérer le corps d'un fiancé qui, en fait, était le corps d'un fiancé qu'elle a perdu. Et ils tombent plus ou moins amoureux, elle et Philippe Noiret. Après, voilà, elle retourne. Après, elle s'en va à New York et puis il lui écrit une longue lettre d'amour. Donc, c'est pour montrer un peu que l'amour est toujours présent, même dans l'horreur. Ce film est très intéressant parce que Bertrand Tavernier ne l'a pas dit de manière très explicite, bien qu'il soit resté très longtemps au masterclass et qu'il ait eu beaucoup de questions. Il n'a pas dit que dans son film, sans peut-être ne l'a-t-il pas fait exprès, ce que personne n'a posé la question, mais enfin, Philippe Noiret dans le film ressemble beaucoup au général de Gaulle, de loin, en silhouette. Il donne l'impression d'un fantôme fugace, un souvenir fugace du général, du grand général qui avait fait la guerre 14-18. Ce n'était pas lui, le héros de Verdun, mais il a été témoin des disputes et des certaines incohérences qui ont pu survenir entre les grands généraux qui prenaient les décisions pendant la guerre. Et c'est là qu'il a fait ses premières armes. Mais à l'époque, il était jeune. Il n'était pas très gradé encore. Il n'était pas encore général. Mais enfin, il s'est quand même signalé par des actes de bravoure pendant la guerre 14-18. Il a une plaque au fort de Douaumont, dans la région. Un fort qui est à visiter, puisqu'on nous explique tout ce qui s'est passé pendant l'attaque des Allemands sur Verdun. Le fort de Douaumont étant un des derniers bastions de défense de la ville de Verdun, un élément fondamental dans la conquête du territoire français par les Allemands. Donc, pourquoi est-ce que Philippe Moret ressemble autant au général de Gaulle ? Est-ce qu'il en était conscient ? Est-ce qu'il a fait exprès ? Toujours est-il qu'en dehors de sa silhouette, il a aussi le bagou et parfois le vocabulaire un peu rude, un peu grossier du soldat, celui que le général de Gaulle avait aussi. C'est quelqu'un qui est pragmatique et qui sait prendre les bonnes décisions et qui sait diriger les opérations, sans pour autant se distinguer du reste des militaires qu'il commande et qu'il dirige, puisque lorsqu'il y a quelque chose de grave, par exemple dans le film, il y a un accident de train, eh bien, sous un tunnel, eh bien, le Philippe Noiret est avec ses hommes à essayer de récupérer les corps et les débris. Donc, Verdun, c'est une ville à visiter, je le conseille à chacun. Il faut y avoir vécu ou y avoir passé un hiver pour comprendre les paysages, le climat, la froidure de l'hiver. Il fait très très froid l'hiver, la terre est gelée. Donc on imagine ce que ça devait donner dans les tranchées quand on était enfermé dans un trou et que dès qu'on levait la tête, on était criblé de balles. Donc voilà, c'est une histoire qui raconte ce que c'était que la guerre de 14-18, entre autres, enfin le juste après-guerre, on va dire. Donc ce qui est intéressant dans ce film, je parlais de la République française tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de petites références, plein de petits symboles propres à la République française. Par exemple, à la fin, lorsque Philippe Noiret est à la retraite, qu'il pense à la femme dont il est tombé amoureux, jouée par Sabine Azéma, qui est partie de l'autre côté de l'Atlantique, il se promène dans son domaine agricole vers sa ferme, et là on a vraiment l'impression d'être face à une affiche de 1981 sur la campagne présidentielle de François Mitterrand. Les affiches Force Tranquille, où on montrait François Mitterrand dans le monde rural, ayant un air placide et semblant dire aux Français qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter parce qu'il était là. On voit, il y a cette histoire de pouvoir public qui veulent pas trop qu'on sache combien il y a eu de morts. Et puis, il y a, à la fin, on voit, c'est une des dernières scènes, le ministre Maginot, qui était alors le ministre de la guerre, qui arrive en boitant pour rendre hommage aux 8 cercueils du soldat inconnu. Il y en a, parmi ces cercueils, il y en a un qui va partir sous l'Arc de Triomphe. C'est celui auquel on rend hommage chaque année lorsqu'il y a l'armistice, de manière officielle, avec une flamme qui n'est censée ne jamais s'éteindre. En fait, cette scène-là, elle fait très bien comprendre ce que c'est exactement que cet hommage, cette commémoration du 11 novembre 1918, puisque on comprend très bien que ces soldats inconnus symbolisent toutes les victimes de la guerre. Mais pas seulement les victimes qui sont allées directement au front, on peut penser aussi aux familles, aux gens qui ont perdu des êtres aimés ou chéris. Et ça, on le voit très bien dans la scène où le ministre Maginot arrive, où vous avez tous les cercueils qui sont au milieu de la pièce, qui sont bien décorés avec des médailles. Et puis autour, vous avez les dames en noir, c'est-à-dire les veuves, ou les dames qui ont perdu leur enfant, et des femmes qui portent le deuil. Or, je le dirai tout à l'heure, ce festival-là, The War on Screen, rendait plus que jamais hommage à la femme. Et la femme est très très présente sur cette scène-là, elle est habillée de noir, elle est là, contente de pouvoir rendre hommage à cet héros de sa famille qui n'est plus là, contente de pouvoir participer, de montrer que la République est présente. Et ce sont ces femmes, la vraie République. Et la République est très présente sur cette scène-là. Elle n'est pas présente seulement en la personne du ministre. Elle est, malheureusement, elle s'étend à ces gens qui sont en deuil et à ces gens qui sont morts et qui sont dans des cercueils. Le ministre Maginot arrive avec un bouquet de fleurs qu'il a cueilli dans les champs pour le mettre sur une des tombes. Les veuves présentées à cette cérémonie, habillées de noir, sombres reliquats et personnages phallos, épouvantail de fortune dont la République se sert pour légitimer ses mauvais choix. Elles étaient là pour rendre hommage. On sent ici que les grands mythes qui ont porté cette guerre, le patriotisme, la France, la République, l'union sacrée, sont superficiels. On sent qu'il y a autre chose, que la République, c'est encore autre chose que cette juste commémoration qui pourtant est bien placée pour exister, qu'il ne faut pas supprimer. Parce que la force de la commémoration, c'est justement de ne pas faire oublier le passé. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, il y a aussi tous ces gens qui ont souffert et qui aussi, qu'ils soient militaires ou pas, qu'ils soient vivants ou pas, représentent tous la République française. Donc cette scène est très importante. Alors on peut se poser des tas de questions. Est-ce que c'est le politique, les hommes politiques, le politique en général, qui empêche la République d'évoluer ou d'avancer parce qu'il cherche à privilégier ses intérêts et qui ne veut pas laisser la place à ces femmes, ces hommes, ces femmes habillées de noir et ces hommes allongés dans un cercueil? Ou on pourrait inviter Bertrand Tavernier à faire un autre film où il montrerait que la République peut être autre chose qu'une République en deuil ou allongée dans une boîte. C'est pour montrer que depuis 1918, la République a évolué et su éviter certains écueils. Voilà. La République est cependant bien là, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui m'a marqué en voyant le film. C'est un petit peu, 14-18, c'est un petit peu la fabrique de la République. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer ce que c'était que ce film de Bertrand Tavernier qui m'a un petit peu marqué. La guerre fut fratricide, meurtrière. Elle est aussi le symbole, cette guerre de 14-18, dont on parle moins que de la guerre 39-45, même si on en a beaucoup parlé l'année dernière, parce que c'était 2018, donc le centenaire. Mais cette guerre de 14-18, en général, on en parle moins que de la plus récente. Et pourtant, on n'a pas encore fini de mettre à jour tous les traumatismes, de faire ressurgir tous les traumatismes qu'ont subis les Français et d'essayer de les guérir. Les guérir par la parole, les guérir par les actes, les guérir en essayant de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Même si le mouvement est quand même en marche. Le simple fait qu'aujourd'hui, dans une campagne qui jusqu'ici était quand même relativement délaissée par les touristes, le simple fait que cette campagne soit aujourd'hui davantage animée, notamment l'été ou l'automne, parce qu'il y a des touristes qui viennent sur les champs de bataille et dans les nombreux musées ou centres de commémoration qui sont dans la région, eh bien, ça aussi, ça fait partie du processus de guérison. Et donc, je disais qu'il y a eu un autre film, c'est le film qui a clos le festival, c'est-à-dire le dimanche soir. Il y a un film de Peter Jackson qui a été montré sur grand écran à tous les gens qui étaient présents après la cérémonie de clôture où ont été remis les prix. Et ce film était lui aussi assez marquant parce qu'il nous montrait la guerre 14-18 telle qu'elle était. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un film de fiction. C'était un film. C'était un film d'archives. Mais attention, alors là, c'est là que c'était très intéressant parce que ça faisait beaucoup réfléchir sur le cinéma, la nature du cinéma et la manière dont on peut penser le cinéma ou on peut l'expliquer. Ce film-là, c'était fait à partir d'archives, mais ce n'était pas un documentaire. Le jeune homme qui est venu nous en parler, qui s'appelle Matthew Lee, qui est anglais, qui nous a expliqué que son grand-père avait fait la guerre 14-18, et qui donc là-bas, les gens sont aussi très marqués par cette guerre, même si ça ne s'est pas réalisé sur leur territoire lui-même, mais ils ont quand même failli être attaqués, hein, ça ne faut pas l'oublier, avec Dunkerque. Ce film-là était vraiment marquant parce que les archives, qui sont des archives de la BBC et de l'Imperial War Museum en Angleterre, ne faisaient pas de quartier avec nos sensibilités. C'est-à-dire que, imaginez, des archives qui ont été colorisées. Sur les tranchées, ça ne rigolait pas, il y a eu des choses vraiment affreuses. Les gens se prenaient des obus et puis ils se retrouvaient avec le cerveau éclaté ou le torse à nu. Donc ça, c'était des images horribles que certains n'ont pas oubliées. D'ailleurs, il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui ont survécu, mais qui sont devenus fous après. Et donc, ces images-là, qui étaient jusqu'ici sur un format noir et blanc, dans une colorisation noir et blanc, je veux dire, sont aujourd'hui, ont été, pour les besoins du film, ont été colorisés. Et donc ça veut dire qu'on voit exactement tout ce qui se passait, avec l'horreur que ça pouvait être. Vous voyez quelqu'un qui se retrouve d'un coup avec les intestins qui sortent. C'est vraiment marquant parce que jusqu'ici, on a toujours entendu parler de la guerre 14-18. Je sais que quand j'étais gamine, je lisais des écrits qui racontaient exactement ce qui s'était passé. Avec les mêmes détails glauques que je viens de donner tout à l'heure. Et pendant des livres entiers, il n'y a qu'à lire Céline ou d'autres auteurs qui ont des témoignages de gens qui ont fait les tranchées, qui s'en sont sortis et qui ont eu ce besoin de raconter ce qui se passait de manière très crue, sans faire de quartier. Bah là, c'est pareil, vous prenez les images en plein dans la gueule, ce ne sont pas des images en noir et blanc, comme elles sont colorisées, on les voit encore mieux, on a l'impression d'y être. Vous sentez, vous savez que ce n'est pas une fiction, une de plus. Et vous voyez également les grands champignons créés par les obus qui éclataient juste devant le visage des soldats. Et vous vous dites, mais zut, là, oui, ça devait être quelque chose, quoi. Et ça donne une impression de ce que pouvait être la guerre 14-18 et de l'horreur de la guerre. Le film s'appelle « Pour les soldats tombés ». Voilà un film du Royaume, un film anglais qui a été réalisé à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, un documentaire d'immersion qui a donné lieu et qui donne lieu de toute façon à une réflexion sur la façon dont on peut traiter les archives. Les archives se traitent toujours avec précaution, elles ne se diffusent pas n'importe comment, dans n'importe quel contexte, et elle ne s'utilise pas n'importe comment. Or, visiblement, ici, les personnes qui ont... Peter Jackson et les gens qui ont réalisé le film avec lui ont eu le droit de coloriser les archives et de montrer la réalité telle qu'elle était. Et c'est très intéressant parce qu'il nous expliquait, M. Matthew Lee, pendant la discussion qui a eu lieu après le film, avec les gens qui ont bien voulu rester poser des questions, ils étaient nombreux, ils nous expliquaient que ce n'était pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un film d'archives, un documentaire, ni une fiction, mais une œuvre artistique qui consistait à se servir d'archives préexistantes et à les avoir colorisées. Alors en plus, ils nous expliquaient que comme les personnes qui ont fait le film ont manqué de moyens à un moment donné, eh bien, le début du film est en noir et blanc. Et ils ont eu l'intelligence d'arrêter ce passage en noir et blanc juste au moment où les soldats arrivent sur le front. C'est-à-dire qu'au début, on voit des jeunes soldats qui se font engager. Il y en a beaucoup qui sont très jeunes. À l'époque, il fallait la condition pour s'engager, pour aller sur le front, c'était d'avoir 18 ans. Et beaucoup ont 16, 15... 17 ans, et mentent sur leur âge. Et l'état-major leur conseille même de mentir, leur dit, bah, dis que t'as 18 ans. Il leur suggère, en leur disant, t'as 18 ans, hein. Et donc, il y en a plein qui se sont engagés comme ça. Et donc, on les voit s'engager sur le territoire anglais, anglo-saxons. Et puis après, ils prennent un bateau et puis au moment où ils arrivent sur le front, paf, on passe en couleur. C'est comme d'un coup une immersion dans la réalité, comme si on faisait un retour, un voyage dans le temps. C'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que ça a aussi poussé les gens à réfléchir à la création filmique. Et justement, là, moi, ce que j'appelle un petit coup de génie, cette coupure entre le passage noir et blanc du début et le passage couleur qui suit juste après, long passage couleur, eh bien, pour moi, c'est vraiment un plus pour le film. Et ça constitue d'ailleurs pour moi le fil principal du film et son véritable apport artistique. Donc la majorité des gens qui vont au Festival War on Screen sont des gens qui sont habitués de la guerre 14-18. Ils la connaissent bien, souvent ils ont leurs parents, leurs grands-parents qui ont été marqués par cette guerre, qui l'ont vécue. Il ne faut pas oublier que juste à côté, à quelques kilomètres de Châlons-en-Champagne, il y a plusieurs villages qui ont été détruits et il y a ces villages-là ont fait l'objet d'une mise sous scellé, mais je veux dire d'un traitement spécifique. On les protège, on protège leur environnement et ce qu'il en reste. Et quand les touristes viennent, ils doivent respecter certaines normes. Ils ne peuvent pas marcher n'importe où, ils doivent faire attention à la végétation. Ça donne l'impression que c'est en fait, là-bas, la nature est encore plus protégée qu'ailleurs. Donc ça donne vraiment une impression d'être dans un écrin de verdure. Et en même temps, c'est très émouvant. Voilà. Donc, nous allons faire notre petite pause musicale. Et j'ai choisi comme pause musicale Etta James, At Last. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. Yeah, at last, skies above are blue. My heart was wrapped up in clover the night I looked at you. I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. When you smile, and then a spell was cast. Here we are.
I hope you enjoyed my cover of At Last. San Francisco! It's been so long, but I'm finally coming back next month, November 10th at the Fillmore. Imaginary Future will be opening up the show, and we're so excited. It's been a really, really long time since we've played up there, and the Fillmore is one of our favorite venues. So come out, tell your friends. It's gonna be so fun. Tickets are down here. Go get them. In other news, I released a brand new song 2 weeks ago. Souvenirs, you can watch the official music video up here. Oh, it feels so good to have the song out, and I'm so grateful to all of you for the love in the last 2 weeks. So thank you so much for listening and for commenting and sharing your stories with me, because it's been really, really powerful. And if you want to know more behind the song, make sure you're following me on Facebook or Instagram, because I've been sharing little like behind the song stuff. because I have so much to say about it. A giant thank you, as always, to KG Records. You guys are the best. Thank you for helping make my music possible. I have so much fun with you guys. I am so grateful for you, and I love you guys so much. And if anyone else would like to join the KG Records family, you can check out down below how to do that. We would love to have you. But I think that's it. I hope everyone is doing really, really well. Sending you all lots of love. And I will see you guys very soon. Okay, bye. Was cast. Here we are in heaven. For you are mine.
Voilà. Donc c'était Etta James, et Etta James justement, il y a sa chanson qui est passée dans un des films qui a d'ailleurs eu un prix au festival War on Screen et qui est sorti la semaine dernière, le 9 octobre, un film qui s'appelle Papicha, un film de Mounia Koudri, une réalisatrice algérienne, qui raconte l'histoire de jeunes étudiantes qui vivent à Alger à la fin des années 80. Ce sont des jeunes femmes qui sont universitaires, qui donc vivent à la résidence universitaire. Et ça arrive en pleine époque GIA, groupement islamique armé. C'est l'époque où il y a des barbus, on les appelait comme ça là-bas, qui essayent de convaincre les gens qu'il faut tous qu'ils soient musulmans et que toutes les femmes doivent se voiler. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que le Front islamique du salut, le FIS, tout le monde s'en souvient, a gagné les élections présidentielles. Les Algériens en avaient un petit peu marre. Et puis c'est vrai que le Front islamique du salut avait beaucoup œuvré pendant des décennies pour montrer aux Algériens qu'il était là, par exemple, et qu'il était là pour pallier aux défaillances de l'État. Par exemple, c'était lui qui vidait les poubelles, c'était eux qui vidaient les poubelles et qui organisaient des actions humanitaires pour les gens qui n'avaient pas à manger. Pendant des années, ça a duré, donc ça n'est pas étonnant ensuite, devant la défaite de l'État vis-à-vis de son devoir social, que le Front islamique du salut ait gagné les élections présidentielles. Que s'est-il passé à l'époque ? Le Front de Libération Nationale, qui était le parti en place depuis 1962, l'indépendance de l'Algérie, n'a pas voulu accepter que l'Algérie devienne une république islamique. Et l'armée a fait un coup d'État et c'est elle qui a pris le pouvoir. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ce soit encore le Front de Libération Nationale qui commande. Et donc, ça avait posé des tas de questions à des tas de personnes. Mais en même temps, les gens du Front islamique du salut n'étaient pas du tout des gens, des démocrates. Et ce n'étaient pas non plus des gens qui étaient favorables à un état de droit, puisque notamment, vous aviez à l'époque le groupement islamique armé. Donc, c'est un petit peu un des ancêtres de Al-Qaïda, puis de Daesh, qui massacrait la population et terrorisait la population à Alger et dans toute l'Algérie. Et souvent, ils organisaient des barrages, ils coinçaient les gens en voiture, qui passaient en voiture, et puis ils les amenaient, ils leur coupaient la tête. C'est là-bas que ça a commencé. Hein. Ça rappelle beaucoup les pratiques de Daesh. Ça a commencé en Algérie. Il y a eu beaucoup de victimes, notamment parmi les artistes et parmi les journalistes. Et ce film rend hommage à ces gens qui sont disparus. L'héroïne principale du film, qui est jouée par Lina Koudri, qui d'ailleurs a pour chanson préférée cette chanson que j'ai passée tout à l'heure de Etta James, cette jeune femme est une jeune étudiante qui est d'ailleurs une sœur aînée, qui est journaliste. Et sa sœur aînée, ce sont des gens tout à fait occidentalisés, enfin modernes on va dire, sa sœur se fait assassiner devant ses yeux. Elle se prend une balle, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de journalistes démocrates qui disaient la vérité et qui essayaient d'œuvrer pour les droits et les libertés, qui sont morts à cette époque. Et donc c'est le premier pas dans l'horreur, et on voit Lina Koudri, qui est une jeune femme qui doit avoir dans le film entre 18 et 20 ans, tomber progressivement dans l'horreur, alors qu'elle est, que jusqu'ici, elle vivait une jeunesse insouciante. On voit ces jeunes femmes qui vont à l'université et puis qui font le mur le soir, de temps en temps, pour aller en discothèque, surtout le week-end. Et Lina Koudry, enfin, celle qu'on appelle Papicha, c'est le surnom qui est donné aux jeunes filles insouciantes à Alger. Cette jeune fille a une passion, c'est la couture et la haute couture. Et donc, elle fait des robes. Et elle va, la mort de sa sœur, qui portait alors un tissu qui était censé créer un voile avec lequel elle s'était amusée précédemment toutes les deux, en visite chez leur mère, va lui donner l'idée de faire un défilé de mode avec des tissus pour haïk. Donc c'est-à-dire elle va coudre des robes qui sont modernes, qui mettent la femme en valeur avec des tissus faits pour être voilés. Et donc dans le film, on voit ces jeunes femmes, elles et ses amies qui sont en pleine joie de vivre, on les voit à leur toilette. Ça rappelle un tableau de Picasso qui a été exposé très récemment pour la première fois au musée Picasso à Paris, qui s'appelle Femmes à leur toilette, fait avec des collages, une œuvre magnifique qui semble montrer que l'avenir du monde, c'est la femme, celle qui sait prendre le temps de faire sa toilette et d'être coquette. Et le film montre bien la joie de vivre de ces jeunes femmes qui sont courageuses, qui ont beaucoup de volonté et qui ne veulent pas tomber dans la barbarie et le terrorisme. Et l'héroïne du film continue à vivre malgré l'assassinat de sa sœur journaliste. Et elle arrive à convaincre la directrice de l'université, malgré les événements en cours, de faire son défilé de mode. Et la force du film, c'est que la réalisatrice a choisi de montrer l'horreur. On voit que le défilé de mode se fait. Et puis, à la fin du défilé, au moment où tout le monde est content, il se passe exactement la même chose que dans une certaine salle de concert chez nous. Il y a des personnes armées qui rentrent dans la salle et qui tirent sur tout ce qui bouge. On a presque l'impression d'être dans cette scène qui s'est déroulée plus de 10 ans après à Paris. Et cette scène-là, elle rappelle, elle se passe pourtant en Algérie bien auparavant. Et ça montre bien qu'il y a une continuité, que nous sommes victimes de part et d'autre de la mer Méditerranée, de la même lèpre et de la même maladie qui est cet extrémisme musulman ou pas musulman, parce qu'il y a aussi beaucoup d'extrémisme, il y a de la radicalisation dans d'autres, avec les autres religions. Dans un contexte tel que celui que nous avons aujourd'hui, on ne devrait pas autoriser certaines personnes, comme les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes, à venir faire du prosélytisme dans les lieux publics. Et donc, c'est pour dire que nous sommes tous victimes de la même lèpre. C'est un film qui est très émouvant, d'abord. Il est aussi pédagogique. Je pense que ces jeunes femmes, elles vivent, elles évoluent, elles ont les mêmes intérêts, centres d'intérêt que tous les jeunes qui sont au lycée ou à l'université aujourd'hui. Et je pense qu'à ces jeunes-là, on devrait leur montrer ce film pour qu'ils comprennent quelque chose. Parce que la radicalisation, ça existe aussi beaucoup auprès des jeunes. Et dans les lycées et collèges, il y a des phénomènes de radicalisation. Et donc, il faut aider ces jeunes à s'en sortir parce que c'est vraiment du conditionnement mental. À une époque où la vie est difficile et où on ne sait pas trop où on va. Pour en revenir à l'héroïne du film et à ses amis, elles essayent de s'en remettre. Ça se finit bien sûr avec une note toujours positive, puisqu'il y a une des amies de Lina Koudry, l'actrice de Papicha, qui est enceinte hors mariage. Donc sa maman, la maman de Papicha, l'héberge et elle va avoir une petite fille à laquelle elles vont donner le prénom de la sœur de l'héroïne. Voilà, Donc c'était pour parler de ce film qui est sur qui passe en ce moment dans les salles de cinéma. Il faut aller le voir, c'est un film important qui montre aussi que l'avenir de l'Algérie est dans les acteurs de la nouvelle la nouvelle génération qui porte un regard tout neuf, moins idéaliste parce que ce sont des gens qui sont peut-être jeunes mais qui sont quand même très perspicaces. C'est un regard qui est moins naïf, mais qui est aussi moins défaitiste en même temps sur le futur. Ces gens-là, ces jeunes actrices, avec cette réalisatrice qui ont présenté leur film à Cannes ou dans d'autres festivals, sont l'avenir de l'Algérie et du monde. Donc cela fait rebondir et fait penser à l'apparition de nouveaux films en ce moment, puisque beaucoup de réalisateurs tournent sur le thème de la radicalisation dans nos sociétés occidentales et contemporaines. On pense par exemple au film belge des Frères Dardenne, Le jeune Ahmed, Palme d'or à Cannes en 2019. Ce sont des films qui sont à la fois émouvants, qui montrent la réalité, mais en même temps, ce sont des films de société, mais qui en même temps permettent de mieux comprendre le phénomène de la radicalisation pour mieux le prévenir. Il va sûrement y en avoir d'autres. Je pense par exemple à l'Hirondelle de Kaboul, qui en ce moment aussi, normalement, ou alors ça vient juste de s'arrêter, où il n'est plus que dans les petites salles, mais enfin il passe. Je vais vous parler encore d'un autre film, puisque j'ai envie de parler des films que j'ai vus. Donc j'ai vu dans les films nouveaux, j'ai vu It Must Be Heaven. J'ai beaucoup aimé ce film, parce que c'est un film qui parle de la Palestine, mais qui en parle de manière un petit peu différente. Pour une fois, on est dans le calme. On ne voit que des choses qui sont tranquilles. Il n'y a pas, d'armes, il n'y a pas de coups de feu, il n'y a pas de sandi, il n'y a pas de mort. Il y a juste un monsieur qui est à la fois le réalisateur et l'acteur principal de son film, Eli Souleyman, et un grand réalisateur, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et ce monsieur, il est là, il fait partie de son film, et il se promène un petit peu de partout. Son identité à lui, son étiquette, c'est d'être palestinien. Mais il ne reste pas chez lui en Palestine. Il sort, il s'en va, il va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. En plus, il a un livre qu'il souhaiterait publier. Et donc, on le voit se promener. Il va d'abord à Paris et ensuite, il va à New York. Alors, à chaque fois, c'est très intéressant parce que il regarde ce qui se passe autour de lui. Et il en fait ressortir les contradictions de ce qui se passe autour de lui. Par exemple, Paris apparaît comme une ville très, 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 très propre, au sein de laquelle vous voyez des beaux personnages évoluer, des magnifiques terrasses de café très bien décorées. Tout est propre, tout est joli. Puis après, il va à New York, où là, c'est un petit peu plus la cacophonie, avec des klaxons, de la pollution, des gens qui se disputent. Voilà. À New York, il rencontre des gens d'une maison d'édition. Notre Palestinien se promène un peu de partout. C'est un nouveau Candide. Mais pas n'importe quel Candide, parce qu'il est palestinien. Il fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre et il traverse les lieux géographiques comme un personnage énigmatique mais pacifique et curieux de reconnaître. Et curieux, pardon, de connaître ce qu'il y a autour de lui dans le monde, qui a beau bouger dans tous les sens, mais ne fera jamais changer ou fluctuer un fait immanent qui ne bougera pas, lui, le fait que la Palestine existe. Les choses changent, les objets changent, les endroits changent, les cultures aussi. Le Palestinien, lui, est toujours là, implacide, toujours portant sa jaquette. Il ne disparaît pas. On le voit évoluer dans les plus beaux endroits du monde, à Paris devant la pyramide du Louvre, rue Montorgueil ou dans un de ces fameux parcs de New York. Il reste toujours présent, parfois un peu étonnée, comme dans une de ces scènes qui se déroule justement dans un de ces parcs, fameux parcs de New York que je ne décrirai pas, mais qu'il faut absolument aller voir parce que c'est un grand moment du cinéma. Lui est toujours là, léger, digne. Un ange passe. Que les protagonistes soient juifs ou arabes n'est pas important, c'est ce qui ressort de ce film sur la Palestine, qui évoque certes la guerre qui sévit toujours là-bas sur le territoire israélo-palestinien, mais qui en même temps nous montre qu'il y a un espoir de paix. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, la Palestine ne bougera pas. Vous avez ensuite un film qui s'appelle Camille de Boris Lochkin qui raconte l'histoire de cette jeune journaliste, Camille Lepage, dont beaucoup ont entendu parler parce que ça part d'un fait réel. Une jeune femme qui était passionnée de photographie, et donc c'était son métier, elle a voulu montrer ce qui se passait, aller faire un reportage photo en République centrafricaine en pleine guerre civile. C'était une guerre civile en même temps qu'une guerre ethnique, interethnique. Et en 2014, donc, elle couvre la guerre civile près de la frontière camerounaise. Et puis, il s'est passé des horreurs, un peu comme au Rwanda, là-bas, dans les conflits ethniques. Les gens ne rigolent pas entre eux. Déjà, quand c'est une puissance étrangère, c'est dur. Il y a des choses horribles qui se passent. Mais quand c'est les Africains entre eux, entre deux États voisins, mais encore pire, entre ethnies qui habitent dans le même État, on dépasse les limites de l'horreur. Et donc là, c'est ce que Camille veut montrer. Alors l'ethnie qui est la plus méchante et qui domine, elle la choque parce qu'elle a vu des scènes affreuses. Et donc elle cherche à montrer, à photographier les gens qui font partie de cette ethnie-là dans la réalité quotidienne pour montrer que ce sont aussi des êtres humains. Je pense qu'elle a dû vouloir se rassurer, son âme devant être profondément touchée parce qu'elle avait vu, par les scènes qu'elle avait vues. Elle a voulu montrer, dans un geste désespéré, qu'il y avait quand même de l'humanité, même dans les bourreaux. Et donc elle les a photographiés dans leur quotidien, et puis elle est morte, assassinée. Donc Boris Lochkin a fait un film qui raconte l'histoire de Camille. C'est aussi un film à voir. Il est venu présenter son film au festival. Il nous a expliqué comment il avait tourné, ce qu'il avait voulu montrer. Montrer qu'il ne voulait pas que la mémoire de Camille disparaisse, ni non plus la tâche qu'elle s'était fixée. Et puis, souhaitant certainement que d'autres allaient prendre le relais. Et puis, il a parlé du travail qu'il a fait avec la famille de Camille pour être autorisé à tourner ce film et pour le faire avec tact et dans la dignité. Un autre film, qui est un film tourné par un réalisateur soudanais, Ajouj Kouka, qui lui aussi était présent. Le film s'appelle Akasha. C'est un film beau, fort en couleurs, qui est tourné au Soudan, un pays où coule le fleuve Nil, un pays qui est très important dans l'histoire du monde, puisque c'est la continuation de l'ancienne Égypte, et il en a même fait partie. Un film où Ajouj Kouka a voulu montrer que la femme africaine était l'avenir de l'homme. Dans ce film-là, les femmes sont toutes de fortes femmes. Il y a un jeune homme, parce que vous savez que, je pense que nos auditeurs savent qu'en Afrique, dans les tribus, souvent, on ne s'amuse pas avec le fait masculin, avec la virilité, et que tous les jeunes hommes doivent prouver qu'ils sont virils et qu'ils ont mérité d'être des mâles en présentant, en suivant toute une série d'épreuves. Ce sont des épreuves parfois intellectuelles relatives à des qualités de concentration, mais elles sont souvent très physiques. Et donc ce passage à l'âge adulte, il est un petit peu évoqué de manière transversale et sous-jacente dans le film, et on voit un jeune homme qui n'est pas courageux du tout, mais qui par contre c'est un beau parleur, et il a eu beaucoup de petites amies, mais il est tombé amoureux d'une. Et il essaye de la courtiser, mais malheureusement, toutes ses anciennes petites amies qui vivent toutes dans le même village lui mettent des bâtons dans les roues. Et il essaye de se faire passer pour un grand guerrier, parce que là-bas, dans ces tribus, ce sont des qualités requises. Être un grand guerrier, c'est la qualité pour avoir une femme. Il faut montrer ses attributs de guerrier. Et donc, finalement, en fait, c'est un trouillard. Il l'avoue à la fin à Akasha, à la jeune femme, qui est une jeune femme très belle, haute en couleur, et qui possède des armes dans sa hutte, tout comme les jeunes, autres jeunes femmes qui ont elles aussi été les petites amies de ce héros factice. C'est très intéressant, c'est très symbolique. Elles ont toutes leurs armes. Et le message de Ajuj Okuka, c'est de montrer que finalement, on se demande si ce n'est pas les femmes qui devraient symboliquement garder les armes, de peur que les hommes s'en servent mal, parce que la guerre, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est ce que va nous montrer, c'est ce que nous montre le film. Le film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Sama, qui est un film qui est réalisé par une réalisatrice qui en fait l'a fait au début, son point de vue au départ était très amateur. Elle ne pouvait pas faire autrement, elle a tout filmé avec sa caméra pendant la guerre qui a eu lieu très récemment en Syrie. Donc il ne faut pas oublier que la ville d'Alep était bombardée, jour et nuit. Et elle a fait partie de ces gens qui n'ont pas voulu quitter Alep. On la voit au début du film, elle est enceinte et elle met au monde sa fille, Sama. Elle s'appelle Wad Al-Kateab. C'est une jeune femme qui veut montrer que c'est une jeune femme qui est prise de vie. C'est quelqu'un d'exceptionnel puisque elle a vécu cette guerre et ses horreurs. On devait se cacher et il y avait des bombardements tout le temps. On ne savait pas si on allait sortir vivant chez soi le matin ou si en sortant on n'allait pas se faire tuer à nouveau. On vivait à la fin avec des appartements où les vitres étaient entièrement calfeutrées à cause des bombes. Et elle continue à filmer et elle continue à montrer que la vie est toujours là, en accouchant deux fois. Elle a deux bébés. D'abord sa petite fille Sama et puis elle a une deuxième fille après à la fin du film. Et comme elle a filmé ses accouchements avec sa caméra, enfin c'est son mari qui a filmé, dans le film, on voit la mort, et puis on voit la vie, on voit la naissance. C'est un film qui est donc exceptionnel. L'équipe du film était là, donc il faut savoir que Wahad Al-Kateb, qui était en 2011 en Syrie pendant la guerre, a réalisé en janvier 2016 des images du conflit syrien pour Channel 4, dans une série de reportages qui s'appelait Inside Aleppo. Au Royaume-Uni, ces vidéos ont battu des records d'audience. Elles ont été plusieurs fois primées. Wad Al-Kateab et sa famille ont été évacués d'Alep en décembre 2016 et ont emporté avec eux leurs images, recueillies au fil des années. Donc c'est un témoignage sans précédent sur la réalité de ce qui s'est passé pendant les bombardements à Alep. Avec son mari Hamza et ses deux filles, ils vivent aujourd'hui à Londres et on leur doit donc ce montage qui, lui, a été réalisé avec l'aide de Edward Watts, un réalisateur qui a réalisé plus d'une vingtaine de films et de documentaires. Donc ils ont rassemblé les images pour faire un seul film qui est présenté sur grand écran. Donc c'est un film à voir si on veut savoir exactement ce que c'était que le conflit syrien. Et on sent là-bas qu'on ne peut pas mentir, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites dans la presse. Voilà. Donc beaucoup de films intéressants, beaucoup d'émotions surtout. Je pense que c'est ce qui est ressorti. C'est ce qui ressort. Je ne pense pas qu'il y ait un festival en France, ni même dans le monde, qui apporte autant d'émotions. C'est un festival qui donne aussi très très envie d'aller se promener un peu de partout dans le monde, qui donne envie de filmer, de ramener des images, de témoigner, de ne pas rester dans son petit chez-soi. Il y a eu plein d'autres films qui sont sortis, je pense notamment au film de Mike Life, Peter Lou, qui est un grand film parce que de toute façon, Mike Life est un grand réalisateur. il était présent, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est un politique qui fait du politique avec ses films. Donc il faut aussi aller voir son film qui parle en fait de quelque chose dont on ne parle pas souvent. Qui parle d'une révolte au Royaume-Uni qui fait partie intégrante de l'histoire du Royaume-Uni, mais dont on parle très très rarement. Donc je pense qu'il vaut mieux écouter Mike Life sur Internet, en parler lui-même, ou aller voir la critique. Voilà. J'évoquerai aussi Lost Caution, un film de Sei Jie, qui est un film chinois. Donc les réalisateurs chinois, coréens, japonais font de très très bons films, et celui-ci en fait partie. Il est très intéressant, il montre une jeune fille qui espionnait un homme qui cherchait à empêcher que se fasse la révolution communiste en Chine. Et donc elle-même est espionne, donc elle est obligée d'être l'amante de cet homme. Elle s'appelle Wong, elle doit séduire Monsieur Yi, et c'est un redoutable chef de la collaboration avec les Japonais. Et la résistance, parce qu'avant la mise en place du régime communiste, les gens qui l'ont mis en place, c'était les résistants, essayent de le confondre avec cette jeune femme. J'ai vu d'autres films, j'ai vu Le Jardin des films qui continue, un des meilleurs films qu'on ait pu réaliser sur la déportation des Juifs. Ici, il s'agit des familles juives d'Italie. J'ai vu Il était une fois, la révolution de Sergio Leone. Là aussi, c'est une chance que d'avoir pu le voir sur grand écran. C'est un film mythique, mais qu'il faut absolument aller voir. Il y a aussi le film Cabaret, qui montre ces cabarets dans lesquels on s'amusait, qui est un film qui était tourné en 1972. Et voilà, le décalage qu'il pouvait y avoir à l'époque, dans le Berlin des années 30, entre des gens qui s'amusaient dans les cabarets et qui étaient insouciants, et puis la marche de l'histoire qui allait vers justement la monopolisation du pouvoir par le Troisième Reich. Ce sont tous des films qui ont été faits avec talent. Il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller consulter, bien entendu, le site du festival, waronscreen.com. Il y a plein d'autres choses qui sont passées dans ce festival, plein d'autres films, des films émouvants, des films avec du talent, des courts-métrages, des discussions, des débats, mais aussi des expositions de peinture ou aussi des expositions de photographie. Donc, je conseille à nos auditeurs qui ne savent pas quoi faire au mois d'octobre l'année prochaine de venir assister, ne serait-ce qu'à 2 jours, parce que ça commence à mardi, mais ça finit le dimanche soir. Allez voir Chalon Champagne d'abord, et aussi venir voir ce que c'est que ce festival War on Screen. Il y a des films que je n'ai pas cités. Par exemple, j'ai vu le film Saf, qui est un film qui a été créé, qui a été filmé en Turquie par un réalisateur qui s'appelle Ali Vatan Sever. Ce film est exceptionnel aussi parce qu'il montre la réalité de ce qui se passe actuellement en Turquie, dans le monde du travail, parce qu'en ce moment, en Turquie, à cause des réfugiés syriens, de par le fait qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens qui sont venus s'installer, dans les grandes villes turques, ça ne se passe pas toujours bien. Donc ce film montre cette réalité-là, bien mieux que pourrait le faire un article de journal. Donc c'est très formateur. Il suffit simplement d'aller sur le site de War on Screen, d'aller voir, d'aller regarder tous les films avec leurs critiques, parce qu'il y a aussi sur le site le journal du festival où vous avez la critique de tous les films réalisés par des élèves de Sciences Po Reims. Et donc tous ces films-là, je ne peux pas tous les citer. Il y a Sue, Winter to My Skin, qui est un film d'Afrique du Sud réalisé par Jamil Kubeka. Et ce film-là nous parle de cette formidable volonté d'indépendance et de liberté des Africains du Sud. Là, il filme l'avant-colonisation de l'Afrique du Sud par les Blancs, mais c'est un message d'espoir pour l'Afrique du Sud à l'époque où on a mis fin à la ségrégation et pour l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Le seul personnage de ce film-là reste le vecteur de l'espoir de toute une nation. Donc c'est vraiment un film important aussi. Bon, c'est pas le seul. Je voulais juste dire que ce festival a mis en avant beaucoup la femme en montrant que face à la guerre, elle était l'avenir du monde. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.